Et donc voilà, nous allons parler
de Sarah Connor Chronicles après ce grand débat qui a été entre Terminator 3 de...
C'est même plus un débat, c'est un monologue.
Voilà, c'était un monologue
de Split Screen.
De Split Screen, avant l'heure, oui.
Bon, alors la série sortie en 2008, créée par Josh Friedman, qui j'ai découvert qui était scénariste de La Guerre des Mondes quand même.
Ah, quand même.
Oui, quand même. Oui, bah, il aurait pu mettre son talent de La Guerre des Mondes pour Sarah Connor Chronicles.
Oui, c'est pas faux ça. Surtout
parce
au
que,
début.
Donc, la série quand même démarre aux États-Unis avec, pour le premier, 18 millions de spectateurs et finit à 8. Donc,
10 millions de moins.
Voilà, la série comporte. La première saison, pardon, comporte 9 épisodes que j'ai acheté en DVD qui est disponible en zone 1 d'ailleurs, si vous voulez, avec sous-titres français. Donc, si vous avez un lecteur dézoné, il n'y a pas de problème. Bon, 9 épisodes, parce que bon, la série était un peu incertaine, je savais pas d'ailleurs si ça allait continuer dès la première saison, tout compte fait au niveau du scénario. Bah voilà, on est après le 2,
oui.
Donc ça, Sarah Connor fuit avec son fils John
Connor.
Quelques mois ont passé.
Ça continue pas vraiment juste après le 2. C'est-à-dire qu'il y a quelques mois qui passent, puisque Sarah Connor...
Il y a quelques mois qui passent après le 2, donc c'est pas après le 2.
Voire peut-être même quelques années,
je crois. Non, mais la façon dont tu dis, j'ai l'impression que ça commence vraiment la fin du 2.
Bah, quelques mois après, c'est quasiment à la fin. Enfin,
Il a grandi quand même, John Connor.
Attention, et à la fin du 2, c'est une route qu'on voit, et le premier plan de la premier épisode, c'est une route avec une voiture qui roule. Donc on peut faire l'approchement.
Sauf que Sarah Connor est déjà repartie, en fait, elle a une vie entre-temps.
Oui, mais en même temps, en plus, la première scène d'ouverture du premier épisode, c'est ta rêve.
Et depuis tout à l'heure, je dis John Connor a grandi aussi. Entre les deux,
oui,
et la
c'est
série,
vrai. Il a grandi et,
plus.
Et l'acteur, c'est juste pas Edward Furlong, quoi. C'est un petit jeune, là, qui, on dirait qu'il sort d'une série télé pour ados, teenager, pour filles, quoi. C'est beau, enfin, c'est. Bah, si, quoi. Voilà, quoi, il est bien, enfin, c'est un jeune gosse, quoi.
Il est respectable en tant qu'acteur.
Bon, on va revenir à mon truc, parce que là, on
voilà,
se disperse.
Oui, oui.
Donc, 9 épisodes, le scénario de la ligne directrice, c'est faut fuir parce qu'il y a un méchant qui nous poursuit, quoi.
Oui, voilà,
en gros, c'est ça. Mais on se défend, on retrouve cette Sarah Connor combattante qui en veut, quoi. C'est-à-dire que, si tu veux t'attaquer à moi, bah vas-y, viens. Bon, John Connor qui se pose des questions sur son avenir, sur son statut de leader, qu'on pouvait d'ailleurs retrouver un petit peu dans le 2, hein. Le personnage se pose un peu des questions quand même. Bon, disons que la saison 1 se termine donc par un joli cliffhanger. On se demande vraiment comment ils vont ramener à la deuxième saison. C'est vrai, on se dit, allez, j'ai envie de découvrir quand même la suite. La deuxième saison arrive, 22 épisodes, et elle a été arrêtée complètement parce que le niveau des audiences était catastrophique. Et surtout,
je crois que c'est de moins de 5 millions.
Par contre, j'ai pas les chiffres. Il y avait quand même un certain joli paradoxe, c'est-à-dire que la saison 2 était disponible en VOD, donc vidéo à la demande, sur le site internet de TF1, alors qu'ils n'avaient même pas diffusé la saison 1. En VOD, donc c'est encore déjà voilà, la série a eu du mal à s'implanter sur la chaîne française, elle est passée sur TMC la première saison. La deuxième saison, est-ce qu'elle passera, ça j'en sais rien.
Non, mais ils ont fait ça, TF1 ont fait ça, c'est essayer de contrer le téléchargement qui était déjà effectif.
Ouais, mais bon, dans ces cas-là, tu mets les deux saisons, quoi, tu commences pas par la saison 2, c'est idiot.
Bah non, dans le sens où s'ils avaient déjà en fait, puisque ça allait prendre un certain temps. Puisqu'ils voulaient rattraper ou être au même niveau que ceux qui téléchargent, comme ils allaient de toute façon toute une saison à faire, ils préféraient faire la saison 2 en priorité, comme ça les gens allaient télécharger en fait la saison 2 en VOD. À la limite, voilà. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, enfin bon, ça reste quand même pour moi.
Bref, revenons à la série.
Oui. Et donc, d'un point de vue du scénario, la saison 2 n'est franchement pas terrible. Ça... Encore la saison 1, 9 épisodes, bon, c'est sûr, c'est plus court, mais au moins les épisodes sont tout de même bien construits. Bon, au niveau de la mise en scène, c'est pas folichon, il n'y a rien d'extraordinaire. Les acteurs, par moment,
les acteurs sont bons.
À part Summer Glau, celle qui joue donc le Terminator
au féminin,
gentil, entre guillemets, au féminin, hein, parce que dans le 3 c'était un robot méchant, la jeune femme. Là, elle est gentille, quoique
on sait pas trop.
On a des doutes d'ailleurs, même sur internet, les rumeurs affluaient. Est-ce que John va avoir une relation sexuelle avec le robot? Enfin, bon, ça voilà, ça allait très très loin. Hein.
Je confirme, il y a eu,
oui, mais surtout que dans la saison 2, il joue là-dessus.
Bon,
il joue là-dessus parce qu'il y a
L'ambiguïté en fait de la relation et les sentiments qu'a John pour John et
Même le robot.
Cameron, parce qu'il faut oublier qu'ils ont choisi de nommer je ne sais pas, par hasard, Cameron, le Terminator au féminin, peut-être pour rendre hommage à un certain réalisateur du même prénom. Et voilà, il y a vraiment une ambiguïté par rapport au sentiment au départ un peu fraternel, voilà, le frère, la sœur et le frère protecteur l'un et l'autre. Puis au cours de la saison, fin de saison, il commence à avoir beaucoup plus d'ambiguïté. Et puis dans la saison 2, il n'y a plus d'ambiguïté.
Du tout, bah non, parce que. Moi, je ne raconte pas.
Pour ceux non, qui non, mais là, il y a des personnages.
Non, mais c'est très marrant, justement. La saison 1 est beaucoup plus drôle et beaucoup plus élaborée que la seconde. Parce que la seconde, d'un point de vue scénaristique, c'est quand même assez plat. Alors que c'est vrai que la série des Terminator, ce qui est réjouissant, c'est toute cette période où les gens ignorent que cette jeune fille est un robot. Et donc. Par exemple, il dit à John Connor, mais c'est bizarre, ta sœur, elle a l'air complètement livide, qu'est-ce qui lui arrive? Et puis, tu sais, elle parle bizarrement et tout, puis assez... enfin, c'est très drôle, ces passages-là. Il y a des clins d'œil, bien entendu, au film, à travers certaines répliques, comme « With me if you want to live »,« Viens avec moi si tu veux vivre », qui était une réplique du Terminator.
Je et auquel on va avoir droit dans le prochain film, aussi.
Oui, ça risque...
Ils vont peut-être dire « I'll be back », ça se trouve, ils vont peut-être... Est-ce que... Et il paraît que... Petite parenthèse sur le 4, apparemment Schwarzenegger devrait faire.
Schwarzenegger fait un caméo.
Ouais, voilà, mais numérique en fait. Enfin, c'est-à-dire, c'est, il voulait pas intervenir directement. Enfin, ils ont dû le.
Mais parce que normalement, vu qu'il est gouverneur de Californie, logiquement, je crois qu'il peut pas tourner dans les films, mais je suis pas sûr.
Alors, ça, je t'avouerais que.
Mais comment les Américains. Un caméo sûrement à la fin où ils vont construire les machines c'est et peut-être qu'il sera utilisé comme modèle, je sais pas. Mais bon, bref. Et.
Non, ce que je veux dire sur la série, c'est que moi, je pense, mon sentiment par rapport à la série, c'est que. Pour paraphraser une autre série, ils avaient un plan. Je pense qu'ils avaient vraiment une idée d'un bon scénario, d'une idée vraiment à développer. On le sent vraiment dans les premiers épisodes et au cours de la première saison. Le problème, c'est que la grève des scénaristes est arrivée, que ça a vraiment causé en fait une sorte de clash, qu'il y a une baisse d'audience. Et je pense que la chaîne a décidé « Ouais, alors vos scénarios un peu alambiqués, tout ça, ça nous emmerde un petit peu. Vous avez des robots. Nous, non, ce qu'on veut, c'est des robots qui se frappent sur la tronche. » Et en fait, c'est, le scénario est très vite... courant fin de la saison 1 et surtout courant la saison 2, ça s'est très vite transformé. Avec une sorte de simplification des intrigues. Finalement, il y a certaines intrigues qui se sont résolues de façon un peu étrange ou plus ou moins étrange, ou qui ont été totalement effacées. Et puis après, ça a été beaucoup action, et puis beaucoup centré sur certains personnages qu'on avait vus en insistant un peu dessus, alors qu'à la limite, ces personnages-là ne représentaient pas grand intérêt. Et voilà, donc à la fois, ça a été, je pense, le grand mal pour cette série, ça a été la grève des scénaristes, plus les baisses d'audience qui a poussé la chaîne à demander... plus d'action, on va dire, alors que cette série, quelque part, moi je trouvais que, alors certes, le concept, ce qu'on peut le dire, je sais pas si tu l'as dit tout à l'heure, mais le concept de base, c'est on fait voyager nos personnages dans le temps pour les placer à notre époque contemporaine.
Ouais, j'en ai pas parlé de ça. Je pense que c'est un ressort intéressant, pas dévoilé.
Ouais, mais en même temps, tu vois, c'est pas non plus. À la fois, je trouve que voilà, c'était quelque chose de, on va dire, purement budgétaire. Quoi. Ils voulaient pas s'emmerder à devoir gérer des décors.
Surtout que c'est limite, d'ailleurs, ce passage-là où ils voyagent dans le temps, puis comme par hasard, tu vois le robot arrive à se régénérer. Tu te demandes, enfin, tu te dis, bah bon. Enfin,
non, vois, mais c'est bien, mais pas, tu te dis, mais à quel moment ils ont construit la machine?
Oui, bah, là, c'est, non, mais bah, c'est comme si comme futur Alain, tout à l'heure, on discutait, puis on disait, oui, dès qu'il y a des paradoxes temporels qui rentrent en jeu, c'est un peu le fouillis.
C'est foutraque.
Ouais, voilà, du coup c'est fourre-tout. On peut dire n'importe quoi, de toute façon, il y a des paradoxes temporels, ça se peut très bien que ce soit pas arrivé, etc. Donc, du coup, ils partent dans des délires, et puis le problème, comme tu dis, il y a eu la crise des scénaristes, ils se sont dit, oh là là, on a beaucoup de personnes sur la main, on sait pas comment faire, bah, du coup, on va faire des scénarios un peu ficelle, voilà, c'est là. Ça serait résume à gunfight, combat entre robots ou entre humains et robots, enfin bref, puis voilà quoi, c'est...
Et puis un élément aussi assez symptomatique, je sais pas si vous avez suivi ça, mais j'avais vu ça sur un site internet, tellement à la pêche en disant, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver pour, surtout courant la saison 2, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver pour attiser, pour relancer la franchise ou l'histoire, c'est qu'ils ont même été piochés un petit peu, non, on va dire un peu dans le folklore américain et ce qui se passait un peu aux États-Unis en ressentant des histoires de drones américains, parce qu'il y avait toute une histoire à cette époque-là de drones américains qui étaient associés en fait à des vols d'OVNI, ou non, pas de vols volés, mais volés survol en fait d'OVNI. Et voilà, ils ont intégré ça dans la série. Et on sent très bien que quand ils intègrent cet élément en fait de sorte de drone américain,
tu crois pas du tout. Quoi.
Tu crois pas, tu crois pas, tu vois pas du tout où ils veulent en venir, et tu sens très bien qu'ils savent pas du tout non plus où ils veulent en venir. Quoi. Ils savent pas du tout comment ils vont utiliser ce truc-là. Alors ils essayent ensuite peut-être de faire un lien. Oui, mais alors ces drones-là, en fait, c'est les sortes de d'hybrides ou de première version des choses volantes qu'on voit dans le futur, donc dans le premier film, parce qu'on voit des choses volantes dans le premier film. Sauf que quand tu en regardes, c'est que technologiquement, ça a l'air beaucoup plus avancé au niveau de la technologie, que le prototype a l'air beaucoup plus avancé que ce qui est censé aboutir dans le futur. Donc en fait, il y a plein d'incohérences. Puis à l'image de ce qu'on voit un petit peu dans la série, au bout d'un certain moment, le drone, ils le mettent dans un camion, ils ferment les portes, et puis on ne le revoit plus du tout, on n'en reparle plus du tout. Voilà, comme ça, ils ont mis ça à la remise.
Ouais, et en espérant en reparler en saison 3, qui n'arrivera jamais.
Je ne sais même pas s'ils pensaient en reparler, parce qu'ils sont repartis après dans une autre direction, en essayant un petit peu de flouer un peu, on va dire, le spectateur.
C'est un élément énorme, quoi, le drone. C'est-à-dire qu'il y a la preuve que voilà, il y a une intelligence artificielle qui crée, etc.
Et que Skynet est déjà en fait en place. Et voilà. Et, alors que justement, tout le début de la première série aussi, c'est est-ce que Skynet est encore à la possibilité encore de se mettre en route, ou est-ce que Skynet est déjà probablement en fonction actuellement, parce qu'il y avait tout un côté aussi sans rentrer dans
paranoïa.
Sans rentrer dans les détails de la première saison, il y avait toute une réflexion par rapport à ce qui était assez intéressant, c'était tout ce qui était le Patriot Act, donc qui était exploité, donc tout ce que Bush avait développé suite en fait aux événements du 11 septembre. Donc il y avait un certain nombre de lois, donc le Patriot Act, donc surveillance des gens, donc un certain nombre de choses qui ont été informatisées, automatisées, et ils étaient en train de dire que en fait c'est un peu ces événements là qui avaient poussé un petit peu à surveiller les gens, à mettre des systèmes de surveillance, même les feux rouges aux États-Unis étaient gérés par une sorte de mini intelligence artificielle. Et voilà, il y a tout leur discours en première saison, c'était que tout ça mis en commun au bout d'un certain moment, ça peut créer Skynet.
Et puis la preuve que la saison 1 fonctionne beaucoup mieux que la saison 2 quand même.
Oui, et voilà. Alors que toutes ces intrigues-là sont totalement abandonnées au service en fait de pseudo-relations entre des personnages arrivants, de personnages qu'on avait vus un peu là dans la première saison. Donc on sent trop dévoilé, mais un personnage qui était lié à Sarah Connor en première saison qui revient. Mais ça devient totalement anecdotique. À un certain moment, on a l'impression même presque de voir des sortes de. Tu parlais de séries de teenagers, mais c'est un peu ça. On avait des intrigues de teenagers à un certain moment.
Je t'aime. Ah bon. Ah oui.
Et on perd un petit peu. Donc, à part peut-être l'arrivée d'un nouveau personnage qui me semblait un petit peu intéressant, qui est cette personnage d'origine un peu asiatique, la seconde saison, on apprend un petit peu peut-être son passif. Qui relève un petit peu le niveau, mais qui là aussi a été, on va dire, sacrifié sur l'autel, parce qu'ils ont zappé un certain nombre de choses.
Excuse-moi, vas-y.
Qui a été en fait sacrifié sur l'autel de scènes d'action, de vouloir clarifier, ou peut-être de finaliser, de clore peut-être une intrigue scénaristique. Mais cette clôture d'éléments scénaristiques a été faite très maladroitement. Donc voilà, ils avaient des éléments qui auraient pu être intéressants, qu'ils ont totalement merdé dans la première saison, des intrigues totalement nulles, qu'ils ont épuisé jusqu'à plus pouvoir dans la deuxième saison. Et quand ils ont pu remonter un petit peu l'échelle, ils ont voulu essayer de faire une sorte de cliffhanger et de clore aussi des intrigues qu'ils avaient commencé à monter avec ces nouveaux personnages, et le font avec beaucoup de maladresse, ce qui fait que ça perd beaucoup d'intérêt. Et pour dire que, puisque ça n'a pas été du tout renouvelé, il y a quand même une sorte de cliffhanger à la fin de la deuxième saison, puisque je pense que vu l'heure que maintenant qui avance, on peut peut-être juste parler, sans rentrer dans les détails, de la seconde saison, ou pas. Encore une fois, il y a une sorte de paradoxe temporel, on essaie de faire un cliffhanger qui est censé tenir en haleine le spectateur pour la suite. Et ça tombe totalement à plat. On se dit oui, alors c'est, on va dire, on a vraiment l'impression quand on voit ça que c'est juste pour le coup de le faire. Ils ont fait ça pour le coup de le faire. Puis quand on y réfléchit, ce qu'ils ont ouvert, la porte qu'ils ont ouvert est totalement ingérable pour les scénarios futurs. Donc peut-être qu'ils étaient conscients qu'ils n'allaient plus pouvoir, ils n'allaient pas pouvoir faire une troisième saison. Donc c'était une sorte de baroud d'honneur, histoire de laisser quelque chose entre les dents des fans, pour qu'ils disent oh mon Dieu, qu'est-ce que ça aurait pu être si ça avait
une
continué.
Fin ouverte, quoi.
Ouais, mais à ce niveau-là, ouais, certes c'est une fin ouverte, mais ça va au-delà de la fin ouverte, puisque ça c'est clairement ingérable. Ouais. Si tu l'as vu, si tu vois dans quelle position. Ah oui, c'est peut-être pour ça aussi, tu vois pas ce dont je parle. Mais les personnages sont mis dans une position qui est clairement ingérable, et qui, à la limite, est en sorte de contradiction avec les paradoxes temporels et avec qui avait essayé d'être développé à travers les deux premiers films et même au début de la première série. Donc voilà. Donc moi, Est-ce qu'on peut parler de conseiller cette série? Bah, pour ceux qui sont quand même des aficionados.
Ah oui,
c'est vrai que moi, j'ai pris quand même beaucoup plus de plaisir, personnellement, à regarder cette série qu'à regarder le troisième film, que ah je oui. trouve qu'au niveau des intrigues, il y a des éléments qui sont beaucoup plus intéressants, que certes, arrivé courant la seconde saison, il y a peut-être des choses, peut-être des épisodes, j'aurais presque envie de dire, à regarder un petit peu en accéléré, puisque c'est vide un petit peu d'intérêt. Mais ça reste quand même quelque chose qui est quand même servi par des acteurs qui sont pas trop mauvais. Même, il y a même eu des surprises, parce qu'on parlait aussi de séries pour teenagers. Donc je sais pas du tout pour le... Je réfléchis, parce qu'il me semble avoir déjà vu quelque part l'acteur qui joue John Connor. Par contre, il y a un des personnages qui est présent, qui va être d'une certaine importance pour John Connor. Alors là, par contre, sans dire qui vraiment qu'il est, là, vraiment, il sort d'une série teenager, parce qu'ils ont fait les fonds de placard avec Beverly Hills, voilà, la célèbre série, pas la nouvelle, mais l'ancienne, il y a plus de 10 ans. Et j'avais certains doutes quant à ses prestations en tant qu'acteur. Et je dois dire que j'étais très agréablement surpris.
Oui, bon, ça va. En même temps, le niveau n'est pas bien haut.
Oui, mais je m'attendais vraiment à pire de sa part. Et puis, il y a aussi Lena Headey, je crois.
Oui, c'est la qui a fait une appel
dans 300. Donc, voilà.